18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonsoir, bonjour à tous, ravi de vous retrouver, vous le savez, c'est toujours un plaisir que vous soyez avec nous. Ici même, on est mercredi et on vous accompagne dans Les Informés. Les Informés, c'est votre émission. L'émission qui vous attend tous les soirs de 18h à 19h30. Alors, qu'est-ce que je vous ai proposé au menu ce soir? Pas mal de choses. Vous et moi, nous allons parler autisme, vous les auditeurs. D'ailleurs, le standard, je l'ouvre tout de suite. Mais je démarre avec vous aussitôt. Après le drame, je vous avoue que ça m'a un peu choqué. C'est pour ça que je veux qu'on en parle, que j'en parle avec vous. À Marseille, il y a eu un drame. Un autiste tué par sa mère. Et puis j'ai vu beaucoup de réactions de pères ou de parents d'autistes qui disaient « Effectivement, parfois, ça nous traverse l'esprit de vouloir suicider ou de vouloir en finir avec tout ça. » Ils disent parfois qu'ils voient la mort qui défie tous les jours leur quotidien. Alors, je voudrais qu'on en parle quand même, parce que est-ce qu'on n'est pas en train de dire que la mère qui a reconnu avoir tué son fils autiste, qui est mise en examen aujourd'hui à Marseille, hein, qu'elle a peut-être raison? Bon, on pose la question. 01 53 48 3000, tout de suite, là, maintenant, je démarre avec vous, au standard. Ensuite, tout à l'heure, nous parlerons avec le face-à-face, le quoi de neuf d'abord avec le docteur Majid Soussine et son billet d'humeur, mais également le face-à-face avec les débatteurs qui vont venir confronter leur point de vue sur l'immigration. Darmanin qui veut inscrire les immigrés menacés d'expulsion au fichier des personnes recherchées. On parlera de la pédiatrie des hôpitaux, c'est la crise justement. Eh bien, on en parle tout à l'heure. Et puis, on parlera de la gestion du Covid avec Édouard Philippe qui réagit aux accusations d'Agnès Buzyn. Et puis, la guerre en Ukraine, le dernier sujet qui a retenu notre attention. Allez, c'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Les auditeurs ont la parole, tout de suite, jingle.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Le numéro est lâché. 01 53 48 3000. Chers amis auditeurs, justement, je vous attends. Maintenant, pour parler de la mère qui a reconnu avoir tué son fils autiste. C'est terrible quand même. C'est un véritable drame. Comment peut-on en arriver là? C'est la question que je vous pose. Vous, qui êtes parents certainement d'autistes, ou pas, d'ailleurs, est-ce que vous, comme certains d'ailleurs de parents que j'ai vu passer, des témoignages, pas mal de témoignages de parents qui sont père ou mère de famille d'autistes, qui disent que effectivement, parfois, bon, alors ils disent que c'est très compliqué, mais ils disent que parfois ils voient la mort passer, évidemment, dans leur quotidien. Alors je vous pose la question, est-ce que cette mère a eu raison? Je dirais non, mais 01 53 48 3000, quand vous êtes père, mère, parent d'un enfant malade, j'irai beaucoup plus loin, handicapé, où c'est très compliqué dans votre quotidien, ça devient difficile à gérer. Est-ce qu'il vous arrive de vous dire, est-ce que ça vous traverse l'esprit de vous dire, j'ai envie de tuer mon enfant, j'ai envie d'en finir avec lui parce que c'est invivable, j'ai envie de me suicider ou j'ai envie de me mettre moi dans une situation de mort? Est-ce que cela a déjà traversé votre esprit? Je vous attends tout de suite, là, maintenant, au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000. À tout de suite, le standard est ouvert, justement, pour en parler. Et puis, les autres parents, qui ne sont pas forcément, évidemment, parents d'un enfant malade, handicapé ou autiste, eh bien, vous pouvez venir pour nous dire tout simplement ce que vous en pensez. 01 53 48 3000. Je vous attends, je ne bouge pas, les amis auditeurs. Le standard, j'attends que ça sonne tranquillement. Je sais que vous êtes peut-être certainement en train de prendre votre goûter tranquillement. Vous êtes posé. Vous sortez du boulot. Vous êtes en vacances. Mais nous sommes ensemble, tranquille. Il n'y a rien qui nous retient, sauf une chose. Je vous attends au standard. 01 53 48 3000. Vous êtes parent d'autiste. Vous comprenez la mère qui a tué son enfant autiste, un véritable drame. Et puis tous ces témoignages qui se succèdent et qui disent comprendre que, évidemment, c'est très compliqué de vivre avec un enfant malade et de vivre avec un autiste ou de vivre avec un enfant handicapé. Eh bien, j'aimerais qu'on en parle ce soir. 01 53 48 3000. C'est parti, je vous attends au standard. Le standard, venez aussi, même si vous n'êtes pas parent d'un handicapé ou d'un enfant autiste, ou venez nous dire votre sentiment. Allez,
allô.
Camélia, c'est la première.
Je vous appelle parce que je viens juste d'allumer mon véhicule.
Oh là.
Et je vous ai entendu et franchement, mon cœur, il s'est mis à battre à 1000 à l'heure.
Ouais, pourquoi ? Vous nous appelez d'où ?
Je vous appelle du 91 de Évry.
Évry. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Camélia ?
Écoutez, je suis maman au foyer actuellement.
Maman au foyer. Alors, oui. Qu'est-ce qui vous met en colère ?
Non, ça ne met pas en colère. J'arrive juste pas à trouver les mots.
Vous n'arrivez pas à trouver les mots. Pourquoi ?
Non, ça ne met pas en colère parce que je trouve qu'il y a des gens actuellement qui galèrent pour avoir des enfants. Mmh. Autour de moi, hein, je vous parle. Hein. Et quand je vois qu'il y a des parents qui ont l'opportunité d'avoir des enfants.
Oui.
Et qui les mettent dans des telles situations, franchement, je suis outré.
On peut être outré. Moi, j'aimerais entendre, vous savez, vous n'êtes pas parent d'un enfant handicapé, malade ou autiste.
Non, j'avais mon papa qui était handicapé, et très handicapé, d'ailleurs, paix à son âme.
Oui.
Et franchement, je les comprends, ces personnes-là, parce que c'est un calvaire. Hein. Faut dire que vivre avec un handicapé, c'est pas évident.
Vous savez les parents de... des parents d'handicapés, de malades ou d'autistes disent que oui. C'est très difficile.
C'est difficile
dans la gestion du quotidien.
Bien sûr, mais ça c'est carrément difficile. Hein. J'ai envie de vous dire, vous êtes cloutré en fait, H24. Surtout si vous avez des enfants qui font des fausses routes la nuit, vous voyez. Ou enfin, un enfant il faut le surveiller 24 toute la journée, toute la nuit en fait.
Mmh.
Et d'avoir un enfant autiste, surtout autiste en plus, autiste c'est très compliqué.
Ouais.
C'est une maladie, et franchement,
c'est très compliqué un enfant autiste.
C'est très compliqué un enfant autiste. Hein. Il suffit juste.
Vous savez qu'il y a une animatrice vedette, hein, une animatrice vedette qui a un enfant autiste. Elle a témoigné ce week-end. Hein.
Oui.
Elle a dit que ça a traversé son esprit hein, à plusieurs reprises, hein, la mort, tout ça.
Ouais, c'est pas évident. C'est pas du tout évident. Franchement, c'est pas évident. Mais
non, c'est compliqué.
Son
hein.
enfant,
c'est compliqué.
Non, mais tuer son enfant parce qu'il est autiste.
Enfin, là, même, c'est enfin, là.
Faut avoir l'esprit, ouais. Faut être courageux. Faut être courageux vraiment pour pouvoir tuer son enfant. Déjà, moi je suis mère d'un petit garçon de 3 ans. Il n'est pas handicapé, il n'est pas autiste.
Oui.
Mais avoir le courage de se dire j'ai accouché d'un enfant, tout ça, les 9 mois qu'on a traversés.
Oui.
Je sais pas, cette dame, elle a quoi dans le cerveau, elle a actuellement.
Ouais. Enfin, je me demande. Je vais consulter les autres auditeurs.
Sa position. Ouais. Ouais. Je veux bien voir la position de cette dame là actuellement. Je sais pas.
Elle est mise en examen, hein. Ça va être terrible pour elle.
Ah bah ça va être terrible. Bah, j'espère que la sentence ça sera irrévocable, oui. En fait, on demande pas le mal pour les gens. Moi je demande pas le mal pour les gens. Mmh. Mais ce qu'elle a fait, ça c'est des choses qui devraient pas arriver normalement. Et en plus je vais vous dire pour les gens autistes, il y a des.
Moi j'ai Jean-Pierre Colombier, ancien commandant de la police, qui a eu à gérer des affaires justement. Il est sur le plateau. Je vois qu'il est. Je sais, il arrive un peu plus tôt. Je vais ouvrir le micro, ça tombe bien. Ça tombe bien. Avant d'accueillir les autres, Jean-Pierre Colombiès, ancien commandant de la police. Bonjour. Bonjour.
Bonsoir Adil. Bonsoir,
vous dites qu'il ne faut pas juger Camélia.
Oui,
vous adressez à Camélia. Camélia, vous écoute Camélia.
Oui, bonsoir Camélia. Oui,
bonsoir.
Oui, vous savez, gardez-vous de juger. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, il faut savoir qu'il y a de moins en moins de structures d'accueil, de relais pour des parents qui face à des enfants qui sont très très malades, très atteints. Il y a des autistes. Les cas de l'autisme, c'est très très particulier. Alors, il y a des autistes calmes, il y a des autistes attentifs, et puis il y a des autistes agressifs et nerveux.
Et il va vous laisser parler,
Et vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, ce que je comprends pas, bien évidemment, il y a les faux. Vous savez, pour juger, ou du moins avoir une appréciation intellectuelle sur ce qui s'est passé, faut essayer de se décaler de l'émotion. Parce que là, bien évidemment, l'information brute, c'est quoi ? Une mère a tué son enfant.
Ouais.
Alors, une fois qu'on dit ça, bien évidemment, on est tous prostrés. On se dit, mais comment on peut en arriver là ?
Bien sûr.
Et moi, pour l'avoir vécu, j'ai pas eu d'enfant autiste, mais j'ai eu des enfants qui ne dormaient pas la nuit. D'accord ?
Et
ça a duré 2 ans et demi. Ben, je peux vous assurer qu'au bout de 2 ans et demi de nuit sans sommeil, très chère madame, on n'est pas bien.
Non, on n'est pas bien.
On n'est pas bien.
Joue dans le.
Écoutez, c'est hormonal. J'ai un enfant, il a 3 ans, il ne s'est pas encore
fini.
Hein.
Ça vous transforme, je crois, ça transforme le corps.
Mais ça a bousillé.
On devient dépressif, non ?
On devient dépressif, on devient agressif.
L'idée
de tuer mes enfants m'a jamais traversé l'esprit, mais je peux vous assurer que je suis devenu nerveux, est très
bien. Pardonnez-moi, Jean-Pierre, ancien commandant de la police, ce n'est pas la même chose que de gérer des enfants qui ne dorment pas la nuit et des enfants qui sont autistes, malades ou handicapés toute la journée. Ce n'est pas la même chose.
Très cher Adi, j'ai connu aussi des cas de mamans qui ont tué leur enfant toxicomane.
Oui. Écoutez, Camélia, on a eu un problème justement là. Je crois qu'elle a eu un problème de liaison. Camélia, n'hésitez pas à nous rappeler. 01 53 48 3000. Restez avec nous, Jean-Pierre. Alam, bonjour Alam.
Bonsoir.
Bonsoir. Vous nous appelez de Paris.
Oui.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Alam?
Moi, je suis aide à la scolarisation dans son situation de handicap.
Ah ben justement, parlons-en. Je vous écoute, bienvenue.
Merci beaucoup. Je voulais témoigner en tant que mère d'un enfant en situation de handicap sévère.
Ah ben très bien. D'accord. Eh ben voilà. Soyez la bienvenue. On voudrait écouter votre témoignage et expérience.
Oui, alors je peux vous dire que tout le monde doit savoir que c'est très difficile et très compliqué de gérer un enfant en situation de handicap dépendant à 100% d'une mère qui doit tout faire pour lui. Je ne peux pas juger la maman qui a atteint le niveau de fatigue mentale au point qu'elle a tué son enfant. Je ne pense pas qu'elle a fait ce qu'elle a fait avec gaieté ou étant... consciente de ce qu'elle faisait. Parce qu'il m'est arrivé d'atteindre un niveau de fatigue mentale au point où moi-même j'ai commencé à me dire j'ai envie de mourir, j'ai pas envie de vivre. Mais en même temps, je n'ai pas envie de le laisser seul parce qu'il est seul.
Oui.
Voilà. Donc.
C'est intéressant ce que vous dites. Est-ce que les pires scénarios ont traversé votre esprit?
Oui.
Oui. Oui.
Il y a eu un moment où. Il y a eu des moments, c'est-à-dire. À chaque fois, j'atteignais un niveau de fatigue mentale maximum, si vous voulez. Il m'arrivait aussi de penser, mais pas de le tuer lui, mais de me tuer moi. Parce que j'arrivais pas le courage de... Je pense que ça m'est pas venu en tête de le tuer lui, mais de me dire pourquoi je vis. C'est quoi cette vie que je suis en train de vivre?
C'est dur, c'est très difficile. Hein.
Oui, je ne pouvais plus voir mon fils souffrir. Je ne pouvais plus me voir, ne pas pouvoir faire quelque chose pour l'aider. Et je ne pouvais plus voir qu'un enfant, malgré tout le niveau de savoir que l'être humain a atteint, les médecins n'arrivaient pas à l'aider. Donc du coup, je ne peux pas juger cette maman. Je suis vraiment désolée pour elle. Et je sais que c'est énormément horrible de pouvoir accompagner un enfant autiste. Donc je veux juste qu'on la laisse tranquille, si vous voulez. Parce que quand on atteint un niveau...
Vous êtes très touchée par ça.
Fatigue. Ah oui, moi, je suis touchée à la fois pour le petit et à la fois pour la maman aussi.
Bon.
C'est horrible. Donc, je sais très bien que je pense que maintenant qu'on lui parle et maintenant qu'on lui dit « qu'est-ce que tu as fait ?», je pense qu'elle se dit elle-même « je ne pensais pas pouvoir le faire ».
Oui.
Voilà, donc c'est très difficile. On ne peut jamais, jamais se mettre à la place d'une personne qui accompagne un enfant en situation de handicap sévère.
Jean-Pierre Colombiès.
C'est très touchant.
Oui, c'est touchant, c'est vrai, vous avez raison. Voilà. Elle s'appelle Alam, elle vous écoute.
Bonsoir Alam. Oui, c'est très touchant ce que vous dites. Très touchant parce que...
Vous êtes émotif, Jean-Pierre.
Oui.
Ouais. Je comprends, c'est normal. Oui. Elle vous écoute.
Vous savez, j'essaye d'aider des enfants en situation de handicap parce que je me dis, mon fils ne pourra jamais être dans une structure, dans une école normale. Mais quand je me souviens du niveau de fatigue que j'ai atteint, heureusement que moi, je me suis moi-même un petit peu orientée vers un médecin pour pouvoir m'aider. Pour me dire si je n'ai pas...
Je vous pose une question à l'âme.
Où je deviens dangereuse pour moi et pour lui.
Est-ce que votre vie bascule? Oui.
Quand on l'a? Ah oui.
Bien sûr.
Ah oui, de toute façon, j'ai tout laissé tomber. J'étais enseignante et j'ai laissé tomber mon boulot.
Donc vous n'avez plus de vie. Pardonnez-moi de vous poser la question un peu, de façon maladroite, mais vous n'avez plus de vie.
Non.
C'est pour ça qu'on ne peut pas juger. Non, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas juger.
On change tout. Oui. On change tout et ça devient notre centre d'intérêt. C'est-à-dire, on doit tout faire en fonction d'eux.
Jean-Pierre Colombiès, souhaiterait échanger avec vous. Jean-Pierre Colombiès.
Accompagner ce que vous dites et on pense très fort à vous. Et moi, j'en ai un peu aussi marre de ces émissions où dégouline la bienveillance quand on a, vous savez, toutes ces émissions de soutien. On dit, ah, c'est merveilleux, on a un enfant qui est malade, mais tout le monde l'aime, on est tous autour. Ça n'est qu'une partie, qu'une vision des choses, parce que, comme vous le dites, on vous entend, c'est très expressif ce que vous dites, ça détruit tout. Ça détruit tout. J'ose pas poser la question du couple. Parce qu'il faut la poser, la question du couple. Oui, vous voyez ce que je veux dire?
Elle vous a répondu à la main. Elle est détruite.
Mais voilà. Donc il faut bien se dire que le geste terrible qu'a commis cette femme de tuer son enfant, faut bien imaginer que c'est un geste ultime. Ultime pour une vie détruite. Les deux vies, trois vies sont détruites, et peut-être plus. Celle de l'enfant, bien évidemment. Celle de la maman, ça va de soi. Mais il y a le papa dont on n'a pas parlé. Comment il a ressenti tout ça? Et toute la famille, comment, c'est effrayant, une situation
comme
celle-là.
C'est vrai, le père, il a dû...
Et il faut raisonner, comme je le dis, je le répète, il faut prendre un peu de recul avec l'émotion. Je suis très mal placé pour le dire. Mais il faut ne pas juger. Mmh. C'est trop dense. C'est trop dense.
C'est vrai.
Il faut pas juger, et on peut pas imaginer la vie de la personne à sa place.
Bon.
C'est pas la peine de dire qu'on comprend ou qu'on imagine et qu'on peut, se mettre à votre place pour comprendre votre vie.
Tout à fait, exact.
Moi-même, mère d'un enfant en situation de handicap, comme il n'est pas autiste, je ne peux me permets même pas de dire que je sais qu'elle vivait.
J'avais un pote à moi qui avait un enfant autiste. Hein. C'est très, très.
C'est
très
lourd,
difficile.
C'est extrêmement lourd.
C'est lourd dans le quotidien. Moi, j'ai vu son fils. Hein. C'est très, très lourd.
Et c'est d'autant plus lourd qu'il n'y a pas d'issue visible. C'est effrayant. Vous vivez avec un enfant qui, malheureusement, a très peu de chances d'évoluer. Donc vous vous dites, ce qu'elle a dit est très vrai, vous vous dites, il n'y a pas d'issue. Qu'est-ce que va être ma vie si ce n'est une vie de désastre?
Alain, merci pour votre témoignage.
Merci à vous et bon courage.
Très, très important. Et bon courage. Et accrochez-vous. Vous savez, j'ai tendance à dire, évidemment, tous les soirs, on ne lâche rien. Ne lâchez rien, ma chère Alain.
Et n'hésitez pas à vous faire accompagner.
Je ne lâcherai pas.
Si je puis me permettre, n'hésitez pas à être un peu égoïste et à penser à vous. Faites-vous accompagner. Et je le répète avec beaucoup de sincérité. C'est peut-être dur à entendre ce que je dis là, mais n'ayez pas peur d'être égoïste.
Voyez-vous, anciens commandants de la police, vous savez, ils ont des sentiments, ils
crachent. Heureusement.
C'est des êtres humains.
Voilà.
C'est des êtres humains. Je vous remercie beaucoup.
Merci.
Bonne soirée.
Nassima, je vous accueille, je vous dis bonsoir Nassima.
Bonsoir.
Restez avec moi, ne bougez pas, on marque juste une courte pause et on se retrouve tout de suite après. Ça marche? À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Il est 18h22, si vous venez de le retrouver, les auditeurs ont la parole. 01-53-48-3000, je vous attends partout en France, venez livrer votre témoignage si vous êtes parent d'un enfant handicapé, malade, autiste. C'est très compliqué, je vous avoue que le témoignage de l'auditrice précédemment, juste avant la pause, de lancer la pause, nous a bouleversés, nous a touchés, effectivement. Y compris Jean-Pierre Colombiès, ancien commandant de la police, comme quoi on reste humain. Nassima, bonsoir. Bonsoir Nassima.
Bonsoir.
Vous nous appelez de quelle ville?
Les Mureaux, dans le 78.
Et qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Je suis assistante administrative.
Bienvenue, on vous écoute ma chère Nassima.
Merci. Donc dans le temps, avant d'être assistante, j'ai beaucoup travaillé avec des personnes sourdes et muette.
Oui.
C'est un autre type d'handicap, mais qui est quand même handicapant pour les familles, mais c'était dans un autre pays du tiers-monde, du coup, qui n'avait pas les moyens. Donc, je vivais un petit peu à travers les parents, leurs difficultés. Et en arrivant ici en France, j'ai ma meilleure amie qui est sur la Côte d'Azur, qui a un enfant autiste. J'ai toujours vu son fils quand je vivais là-bas, étant petit. Je vivais avec elle les difficultés qu'elle affrontait au quotidien. Ça étant petit, donc comme on dit, petit souci. Maintenant, le petit, il a 16 ans. Je peux vous dire que la difficulté, elle est autre, elle est énorme.
Elle est énorme, oui.
Elle est. Mais je peux vous dire que ça fait 4 ans, je l'ai arrêté d'aller la voir parce que à chaque fois qu'on arrive chez elle, on lui chamboule ses habitudes au petit, enfin au petit grand maintenant. Et du coup, il fait des pics de cris, il casse tout ce qu'il voit autour de lui, il a bousculé des gens, son frère qui s'est retrouvé aux urgences. Un jour, on conduisait, il a donné un coup de pied, on a failli avoir un grave accident, on a failli mourir.
Et il devient violent, agressif.
Il devient extrêmement violent.
Oui.
quand je peux vous dire que j'ai vu la mort le jour où on a failli avoir l'accident, là, il y a 4 ans, je peux vous dire que j'ai arrêté depuis ce jour-là d'aller voir ma meilleure amie. Ça me déchire le cœur, parce que je veux être auprès d'elle, mais elle vit des situations. Elle s'est fait opérer il y a 2 ans. Elle pleurait parce qu'elle ne savait pas si elle allait, on va dire, se réveiller ou pas. Et elle disait, je préfère mourir parce que je vivrai plus calvaire. Mais en même temps, si je meurs, qui c'est qui va prendre soin de mon fils? Et elle avait 2 autres jeunes ados aussi, qui leur vie, elle était plus une vie d'adolescent, parce que ça tournait autour de leur frère, autour de leur frère.
Ce que vous racontez, c'est que la femme qui est mise en examen à Marseille de 39 ans, vous savez ce qu'elle a expliqué? Elle a dit qu'elle a été dépassée par les crises de son fils.
Exactement.
C'est pour ça qu'elle voulait finir avec ça. Vous vous rendez compte? Oui, mais il y a le fait, effectivement, de traverser des moments extrêmement laborieux, périlleux, compliqués, parce que c'est votre fils et que les crises sont pas simples à gérer. Mais tout de même, de là franchir le pas à tuer votre enfant, qu'il soit autiste, handicapé et tout, je vous avoue qu'il y a quelque chose qui m'échappe.
Vous n'y arriverez jamais, j'y arriverai jamais, personne n'arrivera jamais à comprendre, à se mettre à sa place.
Les parents d'autistes, vous savez ce qu'ils disent? Ils disent.
Un calvaire.
Ils parlent de calvaire, mais ils disent que, effectivement, ça traverse leur esprit. La mort, le suicide, tout ça. Traverse leur esprit.
Ça traverse. Après, pour franchir ce pas, je peux vous dire que je pense, parce que j'ai fait une étude de sociologie, j'ai fait des études en sociologie, et j'ai fait sur les tentatives de suicide, donc j'ai parlé avec des personnes qui sont revenues de la mort, qui n'ont pas réussi à franchir ce pas.
Ouais.
Enfin, ils l'ont fait, mais ils n'ont pas réussi. Et ils disent que, d'après leur dit, parce que j'ai jamais vécu ça, ils disent que c'est un moment où ils perdent la lucidité, ils ne voient plus que ce moment de mort, d'en finir, d'arrêter tout ça. Après, ça leur concernait à eux. Par contre, donner la mort à une autre personne, je peux vous dire que je pense que ça doit être une autre étape, une autre situation, un autre état d'esprit.
Eh bien, Nassima. Bon, merci d'être intervenue, Nassima.
Voilà, je souhaite beaucoup de courage à toute personne qui prend soin d'une personne dans ce genre d'handicap, ou
absolument,
pire ou moins. Voilà.
Jean-Pierre Colombiès.
Bon courage à tout le monde.
Bonsoir. Moi, ce que j'imagine pour le passage à l'acte, c'est tout simplement un état de crise liée à la fatigue, aux nerfs. C'est une accumulation. L'enfant a 12 ans. Il a 12 ans. Donc, on peut imaginer que c'est 12 ans de stress, de fatigue, et c'est une explosion. Même pas de colère, une explosion de désespoir et de gestes qui dépassent l'entendement. Après, je le répète, tant pis, c'est pas grave si je me répète. Il faut effectivement, pour appréhender ce genre de situation, sortir de l'émotion. Et être vraiment, voir comment tout ça s'est passé. Le juge, la justice fera son job, je vous rassure.
Après, la difficulté en France, c'est qu'il n'y a pas assez d'aide. C'est pas assez. Je sais que toutes les structures qu'il y a, il n'y a pas assez de structures, de suivi. Donc, suivi et pour l'enfant et pour les parents d'enfants.
Je vous le confirme, et ça n'est que dans la droite ligne de la clochardisation de notre système hospitalier. On peut étendre ça à la clochardisation du système psychiatrique, qui n'a plus les moyens de prendre en charge des individus fragiles X ou Y. Je pense notamment à celle qui a assassiné Lola dans des conditions effroyables. Ces gens-là auraient dû être pris en charge psychiatriquement. Ils ne le sont plus. Et pour les enfants autistes, on sait très bien, on a ce retour des parents, que j'entends aussi. Je ne suis pas concerné, mais je l'entends. Il y a ce cri de dire, on ne nous aide pas, il n'y a pas de relais.
Mais ce qui est vrai, en France, c'est très compliqué de gérer les enfants autistes.
Le problème, il est là.
Il faut le dire. J'avais eu l'occasion de faire une interview justement ici, auprès de parents qui ont des enfants autistes, et qui me disaient, c'est très compliqué en France. C'est obligé d'aller en Belgique ou dans les pays voisins.
Vous savez, quand on est confronté à quelque chose d'aussi lourd,
qui gère mieux les autistes.
Quand on est confronté à quelque chose d'aussi lourd, parfois, ne serait-ce que pour une vie de couple normale, une vie de famille normale, avoir une soupape de sécurité et confier son enfant, ne serait-ce qu'une semaine, souffler, se retrouver, ça n'est pas assez suffisant, ça n'existe pas suffisamment. Donc on en arrive effectivement à des situations extrêmes.
On a beaucoup d'appels, pardonnez-moi de vous interrompre.
Non, je vous en prie.
Merci,
bon
Nassima,
courage,
d'être
intervenue.
On est inondé et c'est très bien, c'est une très bonne chose.
Bonne continuation.
Merci à vous aussi. Avant d'accueillir Dalila d'Aulnay-sous-Bois, Amina de Montpellier, Fatima de Paris et tous les autres, 0153483000. 18h30, le Quoi de Neuf.
Les informés, le Quoi de Neuf.
Et le Quoi de Neuf, c'est avec le El professeur, docteur Majid Séhoussine, bonsoir.
Bonsoir Adil.
Mon cher docteur, vous êtes chef de service à l'hôpital Sainte-Camille, mais également à l'hôtel Invalides chez les militaires et au SAMU. Que de responsabilités, hein. Ça va, vous arrivez à faire le schizophrène d'un côté à l'autre?
Non, pas le schizophrène, je suis extrêmement ordonné.
Ordonné, quelle classe.
Je suis un obsessionnel.
Obsessionnel, docteur. Allez, on vous écoute, c'est votre billet d'humeur, justement, le quoi de neuf, avec l'immigration, la Corée, bref, comme tous les mercredis, vous nous faites un petit pudding. On vous écoute.
Bah, écoutez, mon cher Adil, moi je suis très content pour vous. Votre situation va s'améliorer dans le premier semestre de 2023. Il y a juste une petite condition pour cela.
Oui.
Il va falloir que vous acceptiez un petit boulot DDD. C'est-à-dire, ne riez pas.
Bah justement, je ris jaune.
Dur, dégradant, délaissé. Et j'ai trouvé pour cela une petite place dans la blanchisserie de mon hôpital où vous trierez les alaises souillées, les thés d'oreiller pleines de vomi.
Si vous me payez bien, suffisamment bien, je viens.
Mais rendez-vous compte de l'avantage que vous allez avoir avec cela, mon cher Adil. Vous allez enfin pouvoir avoir des papiers.
Le docteur
et vous serez enfin libéré de ce statut.
Ouais, c'est ça.
De seul journaliste sous OQTF.
Ça tombe bien, on a ainsi un commandant de la police. Il va me régulariser, tiens.
C'est
Madame
Darmanin qui va
régulariser. Ouais, c'est pour tout ça, ouais. Il va l'inscrire au FPR, ouais.
Au FPR.
En tout cas, pour une fois, rendons enfin hommage à Darmanin,
oui.
Car ce n'est pas tous les jours qu'il fait preuve de pragmatisme.
Oui.
Régulariser des gens qui déjà mènent une vie régulière, quoi de plus normal, me direz-vous. Car voyez-vous, mon cher Adil, sur notre belle terre de France, vous avez tout un lot de gens qui travaillent, cotisent, payent des taxes, mais restent dans l'illégalité.
Tout à fait.
Vous avez aussi, de l'autre côté, tout un lot d'employeurs prêts à embaucher des gens sur des emplois vacants, dont personne ne veut, et qui ne peuvent être occupés par des travailleurs tout à fait qualifiés. Pour le coup, on est bien loin de l'époque où l'on disait que les immigrés mangeaient le pain des Français. Car moi, aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression que les Français n'aiment plus le pain. En tout cas,
il est fou ce docteur. Vous avez vu comment il va titiller un peu.
Obsessionnel.
Obsessionnel, c'est vrai, c'est vrai.
C'est différent.
Obsessionnel.
En tout cas, je commence à m'inquiéter sérieusement pour 2023.
Ah,
entre Poutine qui s'amuse à bombarder tout et n'importe quoi en Ukraine,
ouais,
et les jeux de missiles auxquels se prêtent les deux Corées, il y a quand même des chances pour que ça finisse par nous exploser à la figure, pour pas employer un autre terme. Pour ma part, je crains plus le Coréen du Nord que Poutine. Pour peu que vexé, on ait raté son brushing, il serait capable d'appuyer sur le bouton maudit, ne serait-ce que pour se refaire cette coupe champignon nucléaire qu'il affectionne tant.
Ah, il est terrible.
Si on ajoute à ça le retour de Netanyahou au pouvoir dans une coalition avec des députés ultra-religieux racistes qui n'ont rien à envier à ceux qui mirent en place en 48 la politique d'apartheid et du développement séparé, apartheid auquel notre président Emmanuel Macron d'ailleurs vient de rendre hommage. En célébrant ce jour, dans la cour carrée du Louvre, Soulages, le peintre spécialiste de l'ultra-noir. Ou, à moins qu'il sacrifie au wokisme, ce qui ne m'étonnerait pas de lui, qui ne sait désormais plus à quel saint se vouer.
Bravo! Bravo, bravo pour ce billet d'humeur. Merci, mon cher docteur. Quel plaisir.
Saint S-E-I-N ou S-A-I-N-T?
Ah, bonne question. C'est vrai. Bien joué. Alors, docteur?
Alors, moi, je pense que c'est S-A-I-N-T quand même. Un peu de tenue, mon cher.
Un peu de tenue, ancien commandant de la police, là.
J'ai commencé aux mœurs, Adil. J'ai commencé à la brigade mondaine.
Alors voilà.
À la brigade mondaine.
Vous comprenez, docteur, maintenant?
Qu'est-ce que j'aurais voulu travailler à la brigade mondaine?
On va traiter du sujet de la crise de la pédiatrie en ce moment. C'est pas terrible, mon cher docteur.
Pédiatrie, même moi, s'il n'y avait que la pédiatrie, c'est amusant parce que s'il n'y avait que la pédiatrie, ce serait pas trop grave, ça pourrait se régler, mais c'est l'ensemble du système qui est totalement dégradé. Et ça fait bien longtemps, on fait semblant de découvrir qu'on transfère des enfants en période de bronchiolite, mais ça, c'est pas tout nouveau. Non,
sauf
hein,
que là, on transfère des enfants qui sont franciliens, on les transfère en province.
Mais c'est pas nouveau, mon cher.
Docteur.
Je me souviens très bien d'avoir vu des transferts de bronchiolite jusqu'à Rouen dans les périodes épidémiques. Il n'y a rien de bien neuf là-dessus. Hein. Malheureusement, le système hospitalier a été décapité. Il y a plus d'une le travail de ça a commencé il y a une vingtaine d'années. Et c'est aujourd'hui qu'on en voit les effets.
Bon. Merci, mon cher docteur Majid Séhoussine. Merci. À mercredi prochain, sans faute.
À mercredi prochain, au revoir.
On marque une courte pause. Tiens, je vais juste accueillir Dalila. Dalila, Daulnay-sous-Bois. Bonsoir, Dalila.
Bonsoir, c'est Dalila, ouais.
Ça va?
Moi, je vous appelle parce que...
Bah, attendez, Dalila, attendez, je vous accueille d'abord. Vous faites quoi dans la vie, Dalila?
Alors, moi, je travaille auprès de la personne âgée.
Oui.
Donc,
eh bien, vous allez nous raconter votre témoignage juste après la pause. Vous êtes d'accord?
Très bien.
À tout de suite. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, les informés, présentés par Adil Farkan.
18h40, les informés, c'est avec, évidemment, dans une poignée de minutes, les débatteurs influenceurs. Je vais prendre les auditeurs, mais soyez juste clairs et rapides, je sais que sur un sujet aussi compliqué, effectivement, parce que comme on a beaucoup d'appels. Dalila, bon, rebonsoir Dalila.
Bonsoir, c'est Dalida.
Dalida, excusez-moi Dalida. Alors, on vous écoute. Ouais,
alors moi je vais c'est pas le jugement ni rien, je demande aux personnes qui sont autour des personnes handicapées de les orienter, de les diriger, de les écouter, parce que vous savez, comme vous avez bien expliqué, que au niveau des structures, déjà il y a pas de structure pour ces personnes-là, malheureusement. Et moi j'avais ma voisine qui avait son enfant autiste. Et de temps en temps, j'allais un petit peu pour la soulager, pour qu'elle puisse sortir un petit peu. Donc, oui. Entre nous, il faut nous aider. Moi, je pense que j'ai pas d'autre mot à dire.
Solidarité.
Orienter, pouvoir. Et puis, le regard aussi. Vous savez, comme vous disiez tout à l'heure, il y a des gens qui ont. C'est pas des enfants normaux ou pas normaux. Ça reste des enfants, ça reste des adultes. Mais je pense que, voilà, on est tous pareils. Et l'écoute. De pouvoir accompagner, même si on, avec des professionnels. Nous, on n'est pas professionnels. Mais le fait d'écouter une personne, déjà, ça peut aider beaucoup, vous voyez. Donc, de partager 5-10 minutes pour pouvoir échanger, ouais. Si on peut aider. Il n'y a que ça à faire.
Absolument, absolument. Je retiens un mot, plus, c'est le mot solidarité, vous concernant.
Ouais, et puis en plus, nous, on a la chance, franchement, dans nos quartiers populaires, on a beaucoup d'associations. Donc, il y a beaucoup de partage. Donc il y a des lieux pour écouter. Voilà, je pense que les gens, il faut qu'ils soient sensibilisés par rapport à ça. Dès qu'on voit une personne, on peut aller la rencontrer, lui dire voilà, parler de petits mots, bonjour, ça lui fait du bien, vous voyez. Ouais. Donc et je pense que personne peut vivre que vit la personne. Ça, il faut, tant que vous n'êtes pas dans la situation, vous pouvez pas comprendre. Parce que moi, je suis auprès de la personne âgée et croyez-moi que quand on voit des choses à l'intérieur de domicile, nous on rentre, on ressort, mais la personne elle reste à l'intérieur, elle vit sa vie. Mais nous, on continue à vivre, mais elle vit pas au final. Vous voyez ce que je veux dire?
Bien sûr.
Et je pense que la maman, c'était peut-être aussi un soulagement, malheureusement. Ce qu'elle a fait, on n'a pas à la juger. Je pense que personne ne doit juger personne. Et voilà, il faut aider les gens, il faut les accompagner. Et bon, aujourd'hui, j'ai envie de dire aux gens, soyez attentifs autour de vous et faites attention autour de vous aussi. Ça, c'est très, très important.
La seule chose merci. Que je veux dire. Merci, Dalila.
Ouais. Donc voilà.
Merci à vous, merci évidemment d'être intervenu. Bonne soirée. Amina de Montpellier. Bonsoir Amina.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, voilà. Bienvenue, on vous écoute.
Merci, voilà, je suis maman d'un enfant autiste profond. J'habite sur Montpellier et je m'occupe de mon fils à plein temps. Et je suis très émue car ce petit ange de Marseille ne mérite pas d'être tué. Je comprends que c'est très dur, je vis la même chose tous les jours. C'est très compliqué, on ne dort pas, on ne fait pas ce qu'on a envie, on est tout le temps avec eux, mais on doit en prendre soin, c'est des petits anges. Hein.
Est-ce que vous arrive d'être sous tension, ma chère Amina?
Ça m'arrive d'être énervée, d'être fatiguée surtout, parce que ça m'arrive de ne pas dormir 2-3 nuits d'affilée. Mais ah, après, quand je vois mon petit ange, j'ai envie de vous dire, j'oublie toute la fatigue.
Il a quel âge?
Il a 7 ans et demi, il va faire 8 ans.
5 ans et demi
et 7 ans et demi, il est non-verbal et il est pris en charge à mi-temps. Donc,
à mi-temps, c'est bien déjà à mi-temps.
C'est pas terrible.
C'est pas forcément. Ouais. Jean-Pierre, il vous dit, Jean-Pierre Colombezit, parlez.
Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Courage à vous aussi, bien évidemment, parce que c'est quand même, ça reste une situation pas simple. Mais par rapport à ce que nous entendions tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez entendu le témoignage de cette dame qui, elle, n'a pas d'aide, qui vit avec un enfant qui est handicapé à 100%, qu'elle doit gérer.
Ça ne donne pas le droit de
non, mais je dis, mais personne ne dit qu'on a le droit de tuer un enfant. Personne ne l'a dit, je crois pas. Ou alors, un mot m'a échappé. Enfin, pas de moi, en tout cas. Personne n'a dit qu'on avait le droit.
Mais
madame, votre cas est particulier, a priori. Il est pris en charge à 50%?
Ce qui est bien.
C'est énorme.
Ce qui est énorme.
Moi, pareil, j'ai mes sœurs, etc. Mais j'ai pas d'aide pour mon fils Adam. Mais c'est pas pour ça que je vais en vouloir à Adam et me permettre de le tuer, quoi. On tue pas un enfant parce qu'il est autiste.
Mais non, c'est pas ce qu'on a dit, hein.
L'État doit faire son travail. Les autistes sont les oubliés de la France. Donc c'est à l'État de faire son travail. Mais ah, il y a des enfants qui n'ont aucune prise en charge.
Ouais.
Je suis désolée, c'est le cri de la colère d'une maman d'un enfant autiste. Je me suis battue pour qu'il aille à l'école. Il a été déscolarisé cette année. À 7 ans et demi, il se retrouve avec des adolescents et des adultes. Il n'a aucune vie sociale. Il voit aucun enfant de son âge.
Ah, ça, c'est pas terrible.
Non, mais c'est excusez-moi de vous interrompre. C'est exactement ce qu'on a dit. Hein. C'est que justement, il n'y avait pas suffisamment de relais et de lieux d'accueil appropriés pour, dans ce genre de situation. On n'a pas dit autre chose.
Hein. Non, mais je sais, il n'y a pas de souci. C'est pas contre vous. Hein, y a, loin de là. C'est, voilà. Ils doivent faire quelque chose pour ces enfants.
Absolument, c'est vrai, très juste. Amina, merci, et je tiens à vous dire vraiment plein de courage et plein de bonnes choses pour vous.
Du courage, merci beaucoup.
Exactement, ne lâchez rien. 18h46, le face-à-face, c'est parti, chers amis.
Les informés, le face-à-face.
Avec Jean-Pierre Colombier, ancien commandant de la police, mais également comédien. Rebonsoir, mon cher commandant. Farid Aide, un élu de la Seine-Saint-Denis. Bonsoir, Farid.
Bonsoir Adine.
Tirez bien le micro de vers vous.
Bonsoir Adine.
Le retour là. Hein.
Tout le monde, ouais, retour. Ça fait plaisir.
Absolument. Gamal Abida, bonsoir.
Bonsoir.
Allez. Bon, tout va bien, messieurs. Tout de suite, nous allons démarrer avec ce premier sujet qui concerne, vous savez quoi, les déclarations de Gérard Darmanin. On doit désormais être méchant avec les méchants et gentil avec les gentils, affirme le ministre de l'Intérieur, qui a détaillé les principales mesures de sa future loi, notamment sur la création d'un titre de séjour métier en tension. Est-ce que cela veut dire qu'il veut inscrire tout simplement les immigrés menacés d'expulsion au fichier des personnes recherchées? Jean-Pierre Colombiès, allez-y. Après, je donne la parole à Gamal Abida et à Farid Aide.
Qui attend, il est chaud là-bas, il s'est chaud.
Il est chaud, je sais qu'il est chaud. Sauf si vous l'enlevez, si vous voulez. Allez Gamal, allez-y.
Écoutez, que dire? Gérald Darmanin multiplie les déclarations punchline. Il est totalement dans l'air du temps, dans l'air des médias, du visuel, du slogan. Il n'y a pas de fond. Il y a une forme qui est totalement et en permanence provocatrice. C'est insupportable. Hier, il nous parlait d'éco-terrorisme. Aujourd'hui, d'inscription au fichier FPR. Ça ne veut rien dire, hein. On va être clair, hein. Inscrire des gens en OQTF au fichier FPR, ça ne veut strictement rien dire. On met au fichier FPR des gens qui sont recherchés suite à un délit, un crime, et qu'on ne sait pas où trouver. Et moi, j'indique simplement, faut le préciser quand même, qu'il y a beaucoup de gens en OQTF, tout simplement parce que leur document administratif est tout simplement arrivé à expiration. Ce qui fait que, mécaniquement, des gens qui travaillent, payent leurs impôts, ont une vie sociale parfaitement intégrée, deviennent des délinquants administratifs parce que leur petit papier vert est arrivé à expiration. Donc, considérer ou inscrire les gens en FPR n'a strictement aucun sens à dire, je vous le dis sur cette antenne, avec la plus grande sérénité. Et ce serait quand même pas mal, à un moment donné, qu'Emmanuel Macron arrête de laisser dire n'importe quoi par son ministre de l'Intérieur. Moi, je les lis tous les deux. Hein. Je sais ce que dit Darmanin est validé par Emmanuel Macron. Donc, quand Darmanin dit une ânerie, ce serait pas mal qu'il le reprenne, parce que ses propos sont tous de nature à créer une tension.
Alors, faisons un tour de table. Gamal Abida.
Il faut être, bon là je peux pas dire autrement que c'est ridicule, ce qui vient d'être dit. D'abord, est-ce qu'il a une police illimitée? Ils ont déjà du mal à gérer les problèmes quotidiens. Il va leur rajouter de la chasse à l'homme, parce que ça s'appelle une chasse à l'homme.
Tout à fait, oui.
Alors, FPR, faut traduire, ça veut dire
fichier de personnes recherchées.
Activement par la police. Alors ça répond à deux injonctions qu'il est en train de mettre en place, parce que il est spécialiste des effets d'annonce et des effets un petit peu fantaisistes, alambiqués, type terrorisme, l'écoterrorisme. Alors qu'on fait le terrorisme et puis l'écologie, c'est très amusant. Pour des tics qui vont se taper 5 minutes sur un terrain d'opération, ça s'appelle pas du terrorisme. Le terrorisme, c'est quelque chose de grave.
Même si c'était quand même très violent.
Non, même si tout le monde s'était fait éclater la tronche, qu'il y avait eu 500 blessés,
ça reste
une manifestation violente. Et si on confond terrorisme et ça, mais 68, c'est une énorme attaque terroriste. Alors, et ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il fait quoi? Il répond à deux agendas. Le premier agenda, c'est de dire que comme il y a une défaillance des systèmes psychiatriques, on en a parlé tout à l'heure en off, la femme qui a tué cette petite fille, par exemple, était effectivement au QTF. Donc là, il se dit, je vais faire une annonce qui a l'air super punchy pour dire que je vais agir. Comme ça, ceux qui sont en irrégularité seront tous littéralement mis en dehors du territoire. Sinon, ils sont criminalisés. Ces fameux fichiers de personnes recherchées, ça répond à ça. Et la deuxième raison, c'est parce que comme il a commis un véritable naufrage sur un plan judiciaire par rapport à l'affaire de Iquissen, qu'il ne l'a pas pu attraper. Mekoussen s'est mis dans une voiture, il s'est barré en Belgique, qui a été interpellé en Belgique et qui a été relâché sous contrôle judiciaire, eh bien ça encore, ça répond à la seconde problématique qui le regarde, encore une fois, un OQTF, parce que Mekoussen ne lui redonne pas ses papiers pour des raisons de non-reconduction de son titre de séjour, ils veulent le virer, il se barre tout seul comme un grand, eh bien c'est fait par deux fois, il y a eu un défaut de sa part. C'est pour ça que je dis, c'est bien beau de faire les effets d'annonce et de créer de la tension qui ressemble salement à des discours d'extrême droite, il faut être très clair, je veux dire. Là, il est en train de répondre à ce que disait l'extrême droite il y a 15 ans. Mais en vérité, ce qu'il dit, c'est un effet d'annonce qui ne peut pas avoir de réalité sur le terrain.
Ah, pourquoi il fait ça ?
Le policier le confirmera.
Ah, pourquoi il fait ça ?
C'est juste parce qu'il veut montrer qu'il est actif.
Qu'il est, oui,
alors,
qu'il est,
blabla, ça, on oui. fait beaucoup d'effets comme ça, oui. verbaux, mais dans les faits, on ne peut rien faire.
Farid Aide ?
Ouais, non, juste par rapport à ce qui a été dit. D'abord, moi, je trouve que dans la situation du pays, normalement, le ministre de l'Intérieur est là pour rassurer. Il est là pour... c'est le premier flic de France. Il est là pour faire en sorte que...
Assurer la paix sociale.
Exactement. Que ça se passe bien dans le pays. Mm-hmm. Lui, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, lui, il fait le contraire. Il distille encore une peur. Il distille encore... suite à un événement... Alors, c'est-à-dire que tous les jours... Un peu comme à Sarkozy quand il était en responsabilité. Tous les jours, il y a une situation... Tous les jours, il y a une situation. D'accord. On fait une proposition de loi... sur l'immigration, sur les questions de sécurité, etc., etc. Voilà. C'est malheureusement encore de la poudre aux yeux, et malheureusement, les gens, je crois, ils en ont marre de ça. Ça,
après,
c'est le premier
après,
point. Deuxième point, attends, juste aussi sur les propos. Moi, je pense que ce qu'il a dit, là, par exemple, sur les manifestants, là, les éco-terrorismes, il parlait, il y a quelques jours, l'ensauvagement, etc., ce ne sont pas des propos dignes d'un ministre de l'Intérieur. Un ministre un ministre de l'Intérieur doit être digne dans ses propos. Et la troisième chose, c'est que vraiment, je trouve que la situation du pays demande de la sérénité, demande qu'on travaille sur les vrais sujets. Parce qu'il y a des sujets sur les questions de sécurité,
inflation,
sur les questions de prévention, etc.
Prix,
au lieu de travailler ça, travailler aussi sur les questions de sécurité en travaillant avec la police, en embauchant plus des policiers, qu'il y ait plus de policiers dans nos quartiers, dans nos villes, etc. Vraiment faire ce travail de prévention de sécurité. Là, vraiment, qu'est-ce qu'on fait ? Comme disait mon collègue, le collègue tout à côté de moi, c'est qu'est-ce qu'il fait ? Il va dans les bas-fonds des médias,
oui, c'est pas par
BFM,
hasard.
Etc. Ça
c'est pas par hasard.
Non, voilà, c'est pas par hasard.
Pourquoi c'est pas par hasard ? Pourquoi
attendez. Juste terminons. On y va juste dans le truc malsain des choses.
Oui,
ça veut dire qu'on y va en disant
ça
que
veut dire quoi,
problème,
ça
c'est ça.
Non, ça veut dire quoi, monsieur le commandant, l'ancien commandant de la police ?
L'ancien commandant, il faut qu'il parle comme citoyen. C'est pas que l'ancien commandant qui s'exprime.
Heureusement
que tu
dis.
Non, mais on va être très clair. Ça fait 5 ans qu'on a une gouvernance.
On va appeler Emmanuel Macron, si vous voulez,
qui règne par une communication anxiogène. En permanence, il faut faire peur. Peur du virus, peur de la guerre, peur des conflits sociaux, peur des terroristes, peur des activistes. C'est que ça. Donc, il a très bien compris. Moi, je vois des gens qui sont terrorisés, qui, dès que quelqu'un éternue, ils mettent 3 masques. Ils n'en mettent pas un, ils mettent 3 masques, un sac plastique sur la tête, et j'en passais des meilleurs. Donc, il a compris que ce message, mais d'un simplicisme absolu, fonctionnait. Et je vais faire court. C'est du sarkozisme, du néo-sarkozisme, si vous préférez. À l'époque, Nicolas Sarkozy, c'était un fait, un déplacement, une loi. Et ça, c'est en permanence.
Mais cette loi va servir à quoi ?
À rien. Le FPR ne sera jamais actif. Il ne sera jamais exécuté. Mais parce qu'on ne fait déjà pas exécuter les OQTF classiques.
Non, mais déjà,
tout simplement.
Une chose qui était relevée.
Et donc, ce FPR, c'est pour les médias qui l'annoncent. C'est pour de la com.
Mais pourquoi on ne peut pas l'exécuter ?
Mais parce que il y a trop de recours. Imaginons, on arrête un étranger en situation irrégulière faisant l'objet d'un OQTF, devenu par la voie sacrée FPR. Bon, on va le présenter à un magistrat qui va tout faire pour l'expulser. Sauf qu'on va retomber dans le même schéma complexe de reconnaissance d'identité, de nationalité,
du pays,
de
consulat.
Donc c'est 0 plus 0 égale la tête à Toto.
Gamal Abina, rapidement, et on enchaîne avec la pub.
Alors très rapidement, d'abord, il faut savoir ce que sont ces étrangers qu'on voudrait mettre dehors. Il y a une chose, j'ai lu un livre de Nadia Troubi, que je salue au passage, la rédactrice chef du Courrier de l'Atlas, qui a écrit un bouquin très intéressant sur les OQTF mineurs. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'il faut d'abord une loi, et ça vient d'être dit à l'instant, qui ne sera pas votée puisque l'Assemblée ne lui est pas favorable.
Exactement.
Et d'une, sauf s'il s'appuie sur le Front National. Deuxième chose, il faudrait effectivement identifier ces personnes, c'est pas évident, il faut un flic quasiment derrière chaque citoyen. Ensuite, vérifier quelle est son origine, et la plupart de ces immigrés qui arriveront en situation irrégulière déchirent leurs papiers et ne disent pas d'où ils viennent. Donc, comment voulez-vous que les pays d'origine accepte de recevoir quelqu'un qui dit qu'il n'est pas du pays en question.
Et quand bien même on le sait, il y a bien des cas où on connaît leur origine.
Dans le cas où on le sait, de toute façon, le rapport.
On continue d'en parler.
Expulsion, sanction, ça ne marche pas.
On continue d'en parler. Je suis obligé de lancer la pause. On se retrouve tout de suite après, justement, et je redonne la parole à Farid. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
Les informer avec Jean-Pierre Colombès, les informer avec Farid Aed et enfin les informer avec Gamal Abina. Gamal Abina, je vous redonne la parole. Ensuite, après à Farid Aed, justement, vous disiez que les expulsions étaient compliquées et que c'était pas si facile que ça. Et que, évidemment.
Ils sont arrivés à faire les marchands de tapis, par exemple. Ils vont en Algérie, Maroc, Tunisie, ils sanctionnent les pays en disant moins de visas, voire plus de visas si vous ne récupérez pas les immigrés. La problématique qui se pose, c'est que les immigrés, ils étaient très intéressants dans les 50-60 pour reconstruire la France. Après 70, ça n'a pas posé problème parce qu'on ne savait pas que la crise serait durable. 80, il y a une austérité monumentale qui s'installe. Et effectivement, ces immigrés, ils ont fait un truc incroyable que la nature autorise. Ils ont fait les enfants. Donc, à partir du moment où ils font les enfants, ils croissent et se multiplient. Et du point de vue extrême droite. Et ces enfants naissent français. Donc, la problématique, c'est parents immigrés, enfants français. Selon, on n'y touche pas. Mais ils le font parfois. Et ce qui passe aujourd'hui, comme l'affaire Ekwissen, le père est immigré de fait, il n'a pas de papier français. Les enfants sont français, la femme est française. C'est dire quoi? C'est dire que simplement, quand on fait les effets comme ça, c'est du sarkozisme sale. C'est Sarkozy qui a lancé la première fois cette immigration choisie. On prend les cerveaux, mais on ne veut pas les bras. C'est ça l'idée. Et bien cela, c'est malheureusement à M. Macron et donc son Darmanin, qui est un sous-Sarkozy de mauvaise facture, qui recycle des idées crasses, qui se rapproche réellement de l'extrême droite. Et j'en veux pour preuve qu'aujourd'hui, on ne parle plus que de cela. Et c'est vrai, je rejoins ce que je disais tout à l'heure, Jean-Pierre. C'est vrai que c'est un bon cache-sexe pour éviter les vraies questions qui fâchent. Il y a une crise qui arrive, il y a une augmentation faramineuse des prix de l'énergie, du coût de la vie, la spéculation sur la nourriture. Tout cela, il ne faut plus en parler.
Monsieur Farid Aed ?
Ouais, je partage, j'irai un peu plus loin. Nous sommes dans une crise importante. Et on a bien vu, il y a eu des manifestations, ils vont encore en avoir sur les questions d'énergie, sur les questions de vie, de la vie chère, on en parle, etc. Et là, comme par hasard, on nous sort une proposition de loi sur l'immigration. Alors là, maintenant, ce qu'on va faire là, tout le monde va parler que de ça. Comme on va parler que de ça, on ne va pas parler des vrais sujets. Et comme on ne va pas parler des vrais sujets, on va encore passer à la trappe. Ça, c'est le premier point. Deuxième point aussi, moi, ce qui me perturbe un peu dans tout ça, c'est que, en même temps, Macron, qui voulait faire descendre l'extrême droite dans le pays, il n'a fait que l'augmenter. C'est-à-dire que l'extrême droite est devenue de plus en plus importante dans notre pays. Ça l'arrange. Et on sait très bien qu'avec cette proposition de loi, l'immigration, elle va être votée. Parce qu'elle va être votée par qui? Par les macronistes. Par la droite et l'extrême droite.
Non, pas toute la droite.
Toute la droite, mais ils vont voter. Toute l'équipe Ciotti, etc., ils vont voter, ils sont dans le même cas de figure. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, on va parler que de ça. Ça va rien régler parce que pour moi, c'est du réchauffé. On arrive, mais on n'a pas vraiment parlé des vraies questions que les habitants portent sur les questions vraiment de sécurité.
Moi, Jean-Pierre Colombès, avant d'aborder le second sujet. Il est 19h précisément pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre.
Très rapidement, parce qu'il y a effectivement deux sujets à aborder. Moi, j'ai vécu une anecdote terrible en 2007. En 2007, je suis arrivé à Boulogne-Billancourt. Il y avait encore une sous-préfecture. Et au tout début de ma prise de fonction, on a été convoqué à la sous-préfecture.
À Boulogne-Billancourt ?
Oui, à Boulogne-Billancourt.
Il y avait une sous-préfecture
qui a disparu après.
Oui, parce que c'est une préfecture maintenant. C'est une préfecture normalement.
Non, Boulogne, non, c'est une sous-préfecture.
D'accord. Okay.
Bref, peu importe. Bon, c'est pas ça le sujet. Bon. Le sujet, c'est
ça, c'est pas la même chose.
J'entends bien, très cher ami. Mais bon, nous étions convoqués, moi et le chef de service, un des chefs de service, à la sous-préfecture où on nous a remis religieusement. Je me souviens encore de ça comme dans un cauchemar. 27 dossiers d'étrangers installés sur le sol français, travaillant, payant leurs impôts, domiciliés, donc parfaitement identifiés et identifiables, mais dont le titre de séjour était arrivé à expiration. Et donc, de fait, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, ils étaient devenus des délinquants administratifs. Et il nous était demandé, vous entendez bien, en 2007, d'aller les arrêter à 6h du matin chez eux,
comme des voyous, quoi,
pour mettre en place la procédure de reconduite frontière. Alors, je peux vous assurer qu'une chose, c'est que je n'ai pas exécuté. Voilà, ça m'a pas valu d'être un copain de la préfecture ni du directeur départemental. J'en suis fortement navré. Croyez bien, c'est bien
promotion.
Mea culpa maxima, mea culpa maxima. On l'a pas exécuté. J'étais tombé avec un commissaire intelligent et sympathique qui a été d'accord avec moi. On avait convenu de mettre ça sous le boisseau. Parce que figurez-vous que dans le paquet, il y avait un nom.
Et qu'est-ce que vous avez répondu à votre hiérarchie?
Ma hiérarchie, on était au temps du sarkozisme triomphant, très cher. Donc, tu baisses la tête.
Mais puisque vous n'avez pas exécuté, vous l'aurez.
Ça a duré quelques années, on ne nous a pas demandé de compte, on a rasé les murs, on a fait semblant. Parce que ce que j'avais vu de particulièrement scandaleux, parce qu'on avait pris la précaution de tous les passer au fichier police pour voir s'ils étaient des délinquants. Si ça avait été des délinquants avérés, croyez-moi, il n'y aurait pas eu de soucis, on serait réellement allé les chercher. Ouais. Si c'était des délinquants. Mais ça n'était en aucun cas des délinquants. Et j'ai même vu un truc absolument abominable d'un dossier où il y avait marqué Monsieur Intel, le fichier de dessous, femme du précédent a interpellé aussi. Vous ne croyez pas que ça vous ramène à des heures un peu particulières? Et ça, c'est du temps du sarkozisme. Et il en a fait d'autres, le père Sarkozy. Ça, je le décris dans mon bouquin que j'ai écrit, que j'invite à ceux qui ne l'ont jamais lu de le relire. Ces années-là ont été terribles.
Juste, je veux dire,
Farida et ensuite Gamal Abdallah.
Moi, je voulais dire aussi que là, si vraiment on voudrait s'occuper des questions de sécurité, on ferait aussi avec les habitants. Par exemple, la ville où moi je suis, 35 000 habitants.
Et quelle?
De Pierrefitte. Ville de Pierrefitte, 35 000 habitants. Mmh. D'accord? Aucun commissariat de police.
Bah oui.
Aucune gendarmerie. Ça veut dire que les 35 000 habitants, ils vivent autre part que la France. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit à la sécurité.
Est-ce que
c'est normal? Est-ce que c'est normal que dans une ville où il y a autant d'habitants, qu'il n'y a pas de sécurité?
C'est le résultat de la suppression d'un fonctionnaire sur deux. J'en reviens à 2003, début des années Sarkozy. Suppression d'un fonctionnaire sur deux. Les gens ont oublié. Ils étaient contents. Ils ont applaudi. On va virer les feignants. Voilà. Les fonctionnaires, c'est tous des ramassis de vin, des traînes savates. On va les virer. Sauf qu'en oubliant que les fonctionnaires, c'était des infirmières, des enseignants et des flics. Et au passage, parenthèse, à Marseille, on ferme un commissariat sur deux.
Dans une ville très dangereuse.
Gamal Abdallah.
Simplement, j'ai à dire une chose qui est une réalité que les gens ne veulent pas entendre, peut-être, c'est que ces débats stériles lancés par des élites politiques qui n'ont rien à faire de la base oublient que les Français, lorsqu'ils vont manifester, étrangement, ils ne manifestent pas pour virer les immigrés. Il n'y a jamais eu de demande de manifestation massive de Français. Il y a dit à l'extrême droite, parfois, 1000, 2000 personnes. Mais il n'y a jamais eu de demande massive de Français qui voudraient mettre ces immigrés dehors. Ça n'est jamais arrivé. Le jour où ça arrivera, le jour où on basculera dans le nazisme, littéralement, le jour où la population s'en convainc que de cela. Non, mais ça devait arriver, je parle. Encore. Là, je suis dans la petite fiction, j'y crois pas du tout.
On n'y arrivera pas.
Mais si on devait arriver à un résultat pareil, effectivement, à ce moment-là, il faut se poser des questions. Mais aujourd'hui, on est rassuré, les Français manifestent pour de vraies raisons, la question économique, la question de la peur des lendemains qui déchantent, et en aucun cas l'immigration, parce qu'ils savent parfaitement que l'immigration, pendant le Covid, on l'a vu, était structurante en termes de logistique, de besoins médicaux, de besoins d'aide au domicile, tout ça c'est des réalités de transport, de Uber, c'est que l'immigration. Moi je prends le taxi régulièrement pour la télévision, je ne vois que des immigrés au taxi, parce que c'est des métiers difficiles.
Alors, second sujet, justement, parlons aussi d'une situation difficile. C'est la crise dans les hôpitaux. L'épidémie d'automne de la brocolite plonge. C'est ça? Qu'est-ce qui vous arrive?
Qu'est-ce qui m'arrive, quoi?
Non, je sais pas, je croyais que vous alliez m'interpeller.
Je bois vos paroles, Adil.
Je sais pas, il m'a regardé, genre, il voulait intervenir pour me.
Il voulait
en découdre avec moi.
Lui, il me voit sous un autre angle.
Plonge un peu plus les services d'urgence pédiatrique dans une énorme crise, comme l'a rappelé le docteur tout à l'heure, Majid Soussine. Justement, eh bien, que faut-il faire? Et comment réagir? Parce que la situation préoccupe évidemment les parents, parce qu'ils se voient parfois, eh bien, quand ils sont d'Île-de-France, à aller en province, comme le disait tout à l'heure le docteur, à Rouen par exemple. Gamal Abdallah.
La question de l'hôpital est une question qui est récurrente, ça fait à peu près 40 ans que ça dure.
Certains parents qui disent qu'on a l'impression qu'on n'arrive plus à arriver à soigner nos enfants.
Mais c'est vrai. Parce qu'il y a
en France.
On se rapproche vraiment d'une politique hospitalière du tiers-monde. J'ai envie de dire simplement, c'est que l'hôpital, le système hospitalier français de redistribution et de soins, et surtout de soutien aux plus démunis, était le plus merveilleux au monde. C'est vraiment impressionnant ce qu'ils avaient réussi à faire. Tout le monde pouvait être soigné. On n'est pas aux États-Unis où on jette les malades à la rue. C'est pas du tout ça. Mais au fur et à mesure, pour une politique de rigueur et de questions de gestion et de rentabilité, comme si la vie était rentable, c'est très ridicule.
Elle a
un coût, mais elle n'est pas rentable. Mmh. Quelqu'un qui est vieux, fatigué, il ne rapporte pas l'argent. Sauf que le rapport au coût, oui, il y a un coût, c'est normal.
Mais
le rapport coût-humanité s'oppose. On ne doit pas espérer d'un vieux qui a un cancer qui ne soit pas traité, parce que ce vieux a travaillé toute sa vie et parce qu'il a le droit aux soins, et tout le monde a droit aux soins.
Bien sûr.
Ce qui fait l'humanité, c'est d'être capable d'avoir une commisération pour le plus faible. Et je répète régulièrement, un État fort protège ses faibles, c'est tout. Donc c'est intolérable.
Jean-Pierre Colombiès.
Je ne vais pas paraphraser ce qui vient d'être dit, mais enfin, là encore, j'en reviens à certaines années en France où on a créé les ARS pour justement... introduire des règles comptables dans la gestion de l'hôpital. On a mis de côté les médecins, on leur dit poussez-vous de là que je m'y mette.
Les technocrates qui
viennent. On a mis des technos à la tête des hôpitaux et on a raisonné uniquement en termes de chiffres. En fait, on a fait à l'hôpital ce qu'on a fait dans la police et dans l'enseignement, on a rationalisé. Voilà. Et les gens l'ont voulu. Faut quand même pas l'oublier.
Les gens
l'ont voulu. Et puis il y a eu ce fameux Ségur. Non, mais on leur a fait croire que c'était le nouveau monde, on allait mieux gérer, vous allez voir.
Ah oui, ils ont bien vendu, c'est ça.
Voilà. Ils ont très bien vendu. Et on a eu Alors, il y a quand même eu ce Ségur auquel beaucoup ont fait semblant d'y croire. Et d'ailleurs, quand on interroge Olivier Véran ou son successeur aujourd'hui, il se retranche toujours derrière. Ah oui, mais on a concerté, il y a le Ségur. Certes, ouais. Mais il en ressort quoi? Bah, il en ressort exactement le même vent, les mêmes illusions que pour le Beauvau, que pour la réunion citoyenne, pour les... ah mince, le climat.
Climat, oui.
Pour le climat, enfin pour tout, quoi. On a macroné, voilà. On a macroné.
Non, mais avant macroné, il faut pas oublier que depuis Sarkozy, on a fermé 17 000 lits.
Tout à fait.
Et vous vous rappelez, même pendant le Covid, où la situation elle était alarmante, le gouvernement Macron a fermé des lits.
Ben oui, il n'y a plus personne.
Ça, c'est un problème. Deuxièmement, le plus beau métier du monde, c'est soigner. Comme on a dévalorisé le métier d'infirmière, d'être soignant. Ça veut dire que on a fait en sorte que c'est ces personnes qui sont dévouées, qui donnent de leur temps, de l'énergie plus que la normale, on a fait en sorte qu'ils soient payés au lance-pierre. Ça veut dire que ça, bout à bout, eh ben à un moment donné, en plus que tu as dit sur la bureaucratie avec l'ARS, moi en tout cas je suis pour la suppression des ARS parce que ça nous coûte de l'argent. Et ça sert à pas grand chose, juste pour faire des comptes et mettre des chiffres.
Ça alourdit,
exactement. Je pense qu'il y a ça. Et aujourd'hui, il faut revenir à ce que disent aussi aujourd'hui les médecins. Mmh. Les médecins, ils disent que c'est alarmant. Les médecins, ils disent qu'on peut plus soigner, etc.
Ah, vous avez entendu le docteur tout
voilà,
à l'heure.
Tout à l'heure. C'est qu'il faut qu'on revienne vers les aides-soignants et que, en fin de compte, on les écoute. Et qu'on discute avec eux, on fait une table ronde et on discute et on crée vraiment les conditions.
Je vais être volontairement provocant. C'est ce qui arrive quand on met un banquier à la tête d'un État. Beaucoup, me semble-t-il, que de votre côté ont voté pour lui il y a peu de temps.
Moi, j'ai pas voté pour Emmanuel Macron. C'est
ça comme ça. Je suis tranquille. Hein,
j'ai pas voté pour Emmanuel Macron. Moi, j'ai voté pour un candidat qui.
Je parle au deuxième tour, très cher ami.
Non, au deuxième tour, j'ai pas voté Macron. J'ai voté pour le moins pire. Parce que moi, je pensais que le pire, pour moi, le pire, c'est quand même Marine Le Pen.
Le pire, mais le moins pire, c'est.
Et le moins pire, entre guillemets, pour moi, c'est Emmanuel Macron.
Donc,
il y avait que deux candidats. On aurait pu faire. Non, mais on aurait pu faire deux choses. Il y a des gens qui ont fait. Soit ils sont abstenus. Voilà. Ou soit ils ont voté soit Macron.
Après,
ou soit Marine Le Pen.
Maintenant,
la situation. Oui, non, mais chacun est libre de faire ce qu'il veut. C'est pas parce qu'on a voté. Voilà, chacun est libre. C'est pas parce qu'on a voté pour Emmanuel Macron au deuxième tour qu'on est d'accord sur sa politique.
Par contre, vous l'avez dit tout à l'heure, vous-même, Jean-Pierre Colombiès. Ne pas juger.
Jean-Pierre. Moi, je suis sur le terrain. Quand je vais voir les gens, je leur dis quoi? Il faut aller voter.
Ah, ça,
il faut aller voter.
Jean-Pierre Colombiès.
Ce qui est dommage, c'est que les gens, ils s'abstiennent.
C'est JPC.
Et quand les gens s'abstiennent, d'aller voter, indirectement, ils ont voté pour Macron ou ils ont voté pour Marine Le Pen.
Oui,
parce que si au premier tour, ils arrivent à voter.
Alors, il y a quelque chose qui devrait, je l'espère, mobiliser la gauche. Parce que je l'espère fondamentalement. C'est que là, on s'achemine vers un quatrième 49-3.
Ouais,
d'accord,
c'est honteux, ça, par contre.
Sur le deuxième volet du budget.
Oui.
Okay, sur notamment le budget des dépenses. Or, certains croient naïvement que ça n'a pas d'impact. Or, s'il y a bien quelque chose qui est vecteur d'une politique, ce sont les budgets. L'argent l'oriente. Et quand j'entends dire parfois des pudeurs de gazelle, ah ben je ne voterai pas la motion de censure d'un tel, c'est le RN, ah c'est pas beau le RN, et où le RN dire, ah je ne voterai pas la motion de censure de la France Insoumise, résultat des courses, pour quelqu'un comme Emmanuel Macron, tout va très bien dans le meilleur des mondes.
Ah, il a obtenu ce qu'il voulait.
Il peut continuer comme ça pendant 5 ans, les amis. Et ça s'appelle un coup d'État républicain.
Ouais. Oui, mais tu sais très bien que si on veut faire tomber le gouvernement d'Elisabeth Borne, il ne suffira pas que la gauche et l'extrême droite votent pour faire tomber Macron. Il faut que la droite...
Oui.
Vote la motion de censure. Et on sait très bien qu'ils ne le feront pas, sauf si... Peut-être, eux, ils proposent une motion de censure et que toutes les autres groupes à l'Assemblée nationale...
Ils ont déjà annoncé qu'ils ne le feraient pas.
Hein. Déjà à gauche, ils ont du mal à faire entre eux. Hein, ils se tapent sur les...
Ils sont divisés déjà.
À peine perdu la députation qui se tape dessus. Après, il faut se mettre d'accord avec l'extrême droite. Alors ça, c'est carrément l'huile et l'eau. Et il faut se mettre d'accord avec la droite qui a tout intérêt à rester avec Macron. Ça n'arrivera pas. Il faut être très clair. Macron est un homme très fin et intelligent par rapport à sa stratégie politique. Je dis pas que c'est un type très fin pour le reste, mais là-dessus, il était malin. Il a fait un discours au sortir de sa défaite, puisqu'il a une majorité relative. Il a dit, à partir de maintenant, débrouillez-vous. je m'en fiche, j'ai les pleins pouvoirs, j'ai le 49-3. Et moi, j'ai dénoncé un système qui est le coup d'État permanent, qui était dénoncé à l'époque par Mitterrand, si je ne me trompe pas. Le coup d'État permanent, ça consiste à dire quoi? L'homme providentiel, l'homme, le chef d'État, le président, el presidente, a tous les pouvoirs, fait ce qu'il veut quand il veut, et ne peut jamais être remis en question. Et là, les Gilets jaunes avaient fait un travail que j'avais apprécié. Ils avaient parlé du RIC parce qu'ils pouvaient remettre en question ses autorités. Aujourd'hui, on est dans un système dictatorial qui ne dit pas son nom, c'est qu'il y a bien des élections pour conduire la personne au pouvoir, et il arrive dans un fauteuil, il n'y a pas eu de problème, mais derrière, il fait ce qu'il veut. Et la problématique de la démocratie réelle, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de démocratie.
Tiens.
Le système français-américain, c'est pour ça d'ailleurs que les gens ne votent plus, c'est qu'ils ont le sentiment qu'une fois qu'ils ont délégué le pouvoir, ils n'ont plus rien à dire. Et ça, c'est des questions qui doivent être posées au niveau du Parlement, de l'Assemblée. Il faut remettre.
Tiens, messieurs, puisque vous avez fait référence à plusieurs reprises du Rassemblement National, vous savez, c'est les élections ce week-end. Les élections de celui qui va présider, tout simplement. Louis Alliot-Marie, Bardella. Qu'est-ce que vous en pensez? Un petit mot.
Alliot-Marie, non.
Louis Alliot.
Louis Alliot, oui.
J'ai dit quoi?
Louis Alliot-Marie.
Ah non, là, autant pour moi. Voilà, J'ai droit à une clochette. Ça m'a échappé.
C'est un lapsus révélateur. Absolument, c'est un lapsus. Il faut rien
attendre. Qu'est-ce qu'on peut attendre justement de cette élection?
Adil, franchement.
Qu'est-ce qu'on peut attendre? Si, il y a un enjeu.
Oui, il y a un enjeu. Il y a un enjeu peut-être pour les personnes qui ne sont pas avisées.
Louis Alliot, c'est pas Bardella.
Louis Alliot et Bardella, pour moi, honnêtement, par rapport à ce qu'ils ont fait, par rapport à ce qu'il a fait à Perpignan, par rapport à ses prises de position, par rapport aux prises de position de Bardella, pour moi, c'est la même. Que ça soit Louis, pour moi en tout cas, Alliot ou Bardella, c'est la même. Sauf Bardella est un peu plus proche plutôt les thèses de Marine Le Pen et un peu plus d'extrême droite. Peut-être que lui à Lyon, parce que comme il gère une ville, alors il peut à un moment donné être un peu plus soucieux des choses. Peut-être. Mais à part ça, pour moi, c'est les mêmes.
Jean-Pierre Colombiès.
Pour moi, enfin, je suis pas inscrit au Front National, je voterai pas. Donc, pour moi, à Lyon n'a aucune chance. Enfin, c'est mon point de vue. Attention, hein, parce qu'il représente justement un temps que les
une
moins
époque.
De 30 ans n'ont pas envie de connaître. Et Bardella apporte ce côté un peu glamour, quoi, quelque part, du beau mec grand qui s'exprime avec aisance. Voilà, il s'exprime. On est dans une époque de toute façon où les médias sont tout puissants. Donc, ce garçon, il a tous les atouts déjà pour faire oublier le nom de Le Pen, premièrement, parce que justement, Alliot étant l'ancien compagnon de Marine Le Pen, c'est pas un atout. Et lui, il arrive avec ce côté punchy, beau gosse, et puis il a tout. Ouais, pour moi, c'est même le futur président.
On marque sur une coque. Carrément. Attendez, je vous donne la parole. Je lance juste la pause.
Okay.
Ça dure pas longtemps.
Oui,
on se retrouve tout de suite après. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
Les informés, dernière ligne droite avec Jean-Pierre Colombiès. Les informés, c'est aussi avec Gamal Abina, mais également aussi avec Farid Aide. À qui je devais te redonner la parole?
Farid. Je voulais juste, parce que comme on parlait quand même de la question des hôpitaux, je voudrais juste dire que, comme vous avez vu, il y a quand même 4000 soignants qui ont fait une lettre ouverte à Emmanuel Macron pour lui dire qu'à un moment donné, il faut vraiment qu'ils prennent la mesure de la situation du pays. En direction des soignants. Et là, vraiment, je pense que sur cette question-là, il faut vraiment qu'on trouve des solutions. On ne peut pas toujours travailler dans l'urgence. On ne peut pas faire travailler le personnel, les soignants, toujours dans l'urgence. Et on l'a bien vu, après le Covid, il y a énormément de soignants, et moi j'ai vu dans mon entourage, qui ont l'âme de soigner les gens, qui ont démissionné, qui sont partis faire d'autres métiers parce qu'ils en peuvent plus, parce qu'ils sont plus considérés.
Gamal, parce que vous vouliez réagir sur le Front National, sur le Rassemblement National tout à l'heure.
Oui,
c'est pour ça que je vous ai dit, je redonne la parole après la pause.
Ce qui a été dit,
et ensuite on parle
je suis d'accord
d'un autre sujet.
Avec JPC. Petite vanne comme ça au passage. Plus sérieusement, je suis d'accord avec l'idée que
JPC.
Le plus dangereux, ouais. Le plus dangereux, ça reste Bardella. Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord, l'autre a son accent du midi. On sait que c'est difficile en France de porter un accent du sud. Ensuite, parce que l'autre est vieillissant. Il a plus de 50 ans. Bardella est jeune. Il donne le sentiment d'être dynamique. Il a une meilleure maîtrise des médias. Et surtout, Bardella est d'origine italienne. Donc, il se drape derrière l'idée qu'il n'est pas raciste parce qu'il est italien. Ce qui est amusant d'ailleurs. quand on sait qu'aujourd'hui c'est le pouvoir Mussolini qui est au pouvoir en Italie quasiment, mais il réussit son coup parce qu'il a un bon sens de la rhétorique, ce que n'a pas Alliot. Alliot, c'est la vieille garde, fatiguée, l'ex-compagnon de Marine Le Pen. C'est quelqu'un qui intéresse pas grand monde et qui est très peu visible. Et quand il prend la parole dans les médias, il endort tout le monde. C'est pour ça que je dis que le vrai danger, c'est Bardella, parce qu'il a ce charme macronien, du jeune premier, avec une belle tête, une bonne coiffure, une bonne coupe de cheveux, avec un discours qui a l'air d'être avenant, alors qu'en réalité, c'est un serpent qui se cache derrière lui. Donc, j'ai envie de dire qu'il va passer, c'est une certitude. Il a tous les codes de communication, il maîtrise les réseaux sociaux, c'est vraiment, il s'inscrit complètement dans l'ère du temps des TikTokers, et aujourd'hui on risque d'avoir une extrême droite représentée par cet homme qui va séduire comme Mario Maréchal qui s'est planté avec Zemmour, mais qui va revenir aussi. Donc ça, c'est ceux-là qui sont les vrais dangers. J'ai envie de rappeler que l'italienne, à l'époque, il y avait Alexandra Mussolini, la petite fille de Mussolini, s'était présentée, la blonde, plantureuse, sympatoche. Aujourd'hui, on a Mélanie qui s'est présentée pareil, la blonde, c'est toutes des blondes d'ailleurs, même les italiennes aujourd'hui, et on se rend compte qu'effectivement on veut séduire par les femmes. L'extrême droite en Europe est portée essentiellement par des figures féminines.
Allez, dernier sujet qui a retenu notre attention, vous savez, c'est cette crise qui continue de faire parler d'elle, la gestion du Covid, avec Édouard Philippe, justement, qui réagit aux propos aux accusations d'Anaïs Buzyn, et il dit évidemment, qu'elle n'avait pas l'impression d'être entendue, c'est ce qu'il dit l'ex-premier ministre, et en même temps, il attaque, messieurs, faisons un tour de table, Jean-Pierre Colombet.
Oui, moi je les trouve mignons tous les deux, parce
qu'ils sont mignons.
Je t'attaque, tu me mords, mais je t'aime quand même, c'est, je t'aime moi non plus, c'est... Moi, je les verrais bien tous les deux dans un club sadomaso en train de se fouetter.
Oh,
dire,
Clochette,
ils sont quand même extraordinaires parce qu'il a quand même été perquisitionné à 6h du matin et mis en examen, enfin mis sous le statut de témoin assisté, grâce à Agnès Buzyn. Ou à cause, non mais il l'a loué, moi j'ai écouté ce matin, il a fait l'interview ce matin où il a trouvé, elle est quand même formidable, c'est une femme d'engagement, ouais tout ce que tu veux.
Mais surtout qu'il dit en même temps, il dit, moi j'ai mis en œuvre ce que tu m'as demandé.
Mais tout va bien, mais c'est, non mais Adil, c'est, on est dans le macronisme absolu, c'est on parle, on parle, on parle, mais il dit une chose très importante surtout. Qu'il faut interpréter.
Il tacle,
mais il dit surtout que la chef ne se défausse pas sur ses subordonnés.
Exactement. Sous-entendu, je suis le chef, je vais couvrir mes ouailles. En fait, ceux qui ont réellement fauté. Déjà, c'est avant-coureur de son système de défense, ce sera du style, c'est pas de ma faute, c'est de la faute aux autres. Regardez tous ces incapables qui étaient conseillers, les conseillers, les experts, mais c'est ni de ma faute, ni celle d'Agnès, la pauvre, elle est gentille, comme on dit à Marseille. À Marseille, on dit elle est gentille. Elle est gentille, elle a fait une déclaration peut-être un peu précipitée, sauf que ça a amené toutes les perquisitions qu'on connaît chez lui, chez Buzyn, chez Salomon, chez Sibeth Ndiaye, et j'en passe des meilleurs. Et l'affaire ne fait que commencer.
Ouais, mais Adil, moi, je trouve dans cette situation, franchement, ces deux personnages, moi, je les trouve lamentables. La situation du Covid, le nombre de morts, les blessés qu'on a eus, avec les soignants qui ont donné de leur temps, de l'énergie, etc. On voit qu'il y a encore des conséquences. Il y aura des conséquences de l'après-Covid. Par rapport au vaccin qu'on nous a mis, etc.
On ignore beaucoup de choses,
etc. La situation catastrophique du pays. Et on nous dit, et là ils font mumuse les deux en disant alors tu m'as pas aidé, le gouvernement m'a pas soutenu, etc. Moi je trouve que c'est lamentable pour des femmes et des hommes politiques à ce niveau-là. Premièrement. Deuxièmement, je trouve ce qui est regrettable aussi. Et moi je l'avais dénoncé à cette époque, c'était d'avoir pris la responsabilité d'organiser les élections municipales à ce moment Covid. Moi, j'ai dit que c'était lamentable.
Absolument. Et d'avoir abandonné le bateau en plein naufrage.
Exactement. Alors, elle a abandonné le bateau. Elle a été candidate.
On a un débatteur ici qui est tombé dans le coma pendant 3 mois.
Karim
Alouache.
Exactement. Elle a été candidate. Elle est arrivée 3e à la mairie de Paris. Et on a vu dans toutes les villes. Moi, j'ai été candidat. Comment faire campagne? En distillant la peur. Il faut les mettre le masque, pas le masque. Il faut les se faire vacciner, pas se faire vacciner. Qui allait voter? C'est ceux-là qui étaient vaccinés, pas vaccinés, etc. On a créé un flou. Et c'est pour ça qu'il y a eu en même temps énormément d'abstention. Parce qu'on sait très bien que quand même l'élection du maire, c'est quand même une élection où il y a quand même pas mal de votants, où il y a beaucoup de participation. Là, il y a moins de participation. Et on s'est dit, et après, moi, je me rappelle, on avait fait un recours au préfet, et tout le monde voulait pas s'en mêler en disant, non, c'est pas grave, il y a eu les élections, maintenant on tranche, tous ceux-là qui ont été élus, ils sont élus, etc. Ça veut dire que franchement, moi je suis vraiment déçu, et je suis vraiment déçu de ces femmes et ces hommes politiques qui prennent pas leurs responsabilités.
Gamal Abina.
La phrase clé de cet entretien qui dure une quinzaine de minutes, c'est de dire un chef, ça ne se défausse pas sur ses subalternes. Sur ses subordonnés, pour être très précis.
Subordonnés, il a dit.
Il ne dit pas ça seulement à destination de lui par rapport à sa fidélité vis-à-vis d'une femme qui est en train de lui tirer dans les pattes parce qu'il se déteste cordialement. Il le dit aussi pour dire que moi aussi j'ai un chef au-dessus de moi. Il s'appelle Macron. Et que la politique sanitaire a été conduite par lui. Donc de dire, si moi je tombe, Macron, attention, je vais balancer les blases. En gros, il faut comprendre qu'aujourd'hui, on est dans les règlements de compte. Alors par contre, je ne vais pas du tout être d'accord avec ce qui a été dit sur la question de ils ont fauté, c'est leur responsabilité. Ils ont fauté sur les élections, c'est vrai. Indiscutablement, la vague était arrivée, ils savaient qu'il y aurait des morts. J'ai déploré la mort d'un ami qui était conseiller municipal à Aubervilliers, que j'avais vu un mois avant. Donc c'est dire à quel point c'était une erreur, parce qu'il a participé aux élections en tant que scrutateur. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a des choses qu'on ne peut pas reprocher tout le temps. Moi, j'ai envie de mettre un petit peu un bémol là-dessus. C'est-à-dire, quand on est responsable politique dans une pandémie mondiale qui a tué des millions, des dizaines de millions d'individus, et dont on savait que ça allait être monstrueux, à ce moment-là, je peux dire, ils sont responsables de tout. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé les moyens qu'ils avaient effectivement entre les mains, à savoir la vaccination, bonne ou mauvaise, de toute façon c'était le seul moyen pour stopper cette pandémie qui, je le rappelle aujourd'hui, est finie. Pourquoi? Parce
fini,
que
fini, elle est finie, elle est finie. J'ai eu encore des cas Covid la semaine dernière. Elle est pas finie. Moi j'ai eu là justement là, il y a parmi les réalisateurs là qui sont tombés
malades.
Les masques. On dit alors. On disait que les masques, il fallait pas les mettre, ça sert à rien et tout, etc. Après on a dit il faut les mettre.
On l'avait en stock.
On avait même Roselyne Bachelot. Elle l'a dit, il y avait un stock des millions de masques.
Les communistes, on l'a pas écouté.
Gamal Abina.
Les masques sont une faute qui a masqué une réalité. Ils savaient qu'ils n'avaient pas de masques, ils ne pouvaient pas les produire, ils ont menti. Ça, c'est clair. Ils ont menti parce qu'ils étaient en défaut.
C'est grave.
C'est sûr que c'est grave. Là, il y a une responsabilité.
C'est pas grave, c'est
gravissime. Pour le dire aux Français, on est des incapables, on ne sait pas faire, on ne pourra pas nous protéger. Ils auraient dû le dire, ils ne l'ont pas fait. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y avait un banc de panique généralisé. Je rappelle qu'aujourd'hui, quand je dis qu'elle est finie, ce n'est pas qu'il n'y a pas de Covid, il y en a toujours. Mais la pandémie, en termes létals, c'est-à-dire la massification des morts, n'est plus là. On demande d'ailleurs au docteur Magistère, s'il confirmera. On n'est plus en insaturation, les hôpitaux gèrent très bien ce qui arrive. Donc on n'est plus sur la même chose. Par contre, c'est vrai qu'il y a des comptes à rendre. Pourquoi? Parce que Agnès Buzyn et son équipe, elle n'était pas seule, hein, parce qu'il ne faut pas incriminer une femme, c'est trop facile. Elle, son mari, toute l'équipe qui est derrière.
Et Jérôme Salomon, il ne faut pas l'oublier.
Et Salomon, oui, bien sûr. C'est pour ça que je dis toute l'équipe. Mérite, parce que eux, c'est des vrais professionnels. J'ai envie de dire, indépendamment de monsieur, l'ancien Premier ministre Edouard Philippe, il n'est pas expert médical. Il a écouté ces gens qui sont des experts.
Mais elle avait un conseil scientifique.
C'est pas une imbécile.
Oui, elle est médecin quand même.
Le conseil scientifique, ça amène à tout. Ils disaient n'importe quoi. Ils l'ont dit après d'ailleurs. Mais ce qui se passe, elle est chercheur, c'est pire. Elle n'est pas médecin. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui connaissait parfaitement son sujet. Et bien, sa responsabilité est engagée. Je pense qu'elle doit être, elle et son équipe, condamnée pour ce qu'ils ont fait. Après que Edouard Philippe soit solidaire d'eux ou pas, d'ailleurs, il en témoin assisté, ça le regarde. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que cette femme-là doit tomber. Parce qu'elle savait.
Oui, mais Adil, juste une question.
Allez, on dort de l'antenne.
Tout de suite, Edouard Philippe a plus à perdre qu'Agnès Buzyn.
Ah, parce ça, c'est sûr.
Edouard Philippe, lui, il pense. Exactement.
Président dans 2027.
Exactement.
Merci à Gamal Abina, merci à Farid Aïd.
Merci à Adil.
Merci à Jean-Pierre Colombiès.
Merci aux auditeurs.
À la réalisation, c'était Anthony. Et merci, vraiment, je voudrais dire un grand merci particulier à celles qui ont pris leur courage, évidemment, et venir témoigner tout à l'heure sur l'antenne de nous parler de leurs enfants autistes handicapés. Pas facile. Merci à vous, parce que vous êtes de plus en plus nombreux, comme chaque soir d'ailleurs. Merci à vous tous. Bilal Lendman, c'est de 20h à 21h. Ensuite, Vanessa à 21h. Quant à moi, eh bien, à demain, avec autant de plaisir. Mais d'ici là,
on ne lâche rien.
À demain.
Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.